Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le Christ ne veut pas de chrétiens égoïstes, faibles ou télécommandés, mais des chrétiens libres qui suivent leur conscience à l'écoute de Dieu, comme l'a fait Benoît XVI quand il renonçait à sa charge. Le pape salue l'exemple laissé par son prédécesseur. François lance un appel aux jeunes catholiques lituaniens réunis ce week-end. Témoignez autour de vous, à vos amis, mais aussi auprès des plus pauvres. L'aumônier Vincent Leclerc témoigne, lui, en prison. Dans cette émission, il nous parle des conditions carcérales en France. Et puis enfin, l'invité de Catherine Aubin est le père et ancien concertiste Jean-Rodolphe Cars. Il nous décrit sa passion pour le compositeur Olivier Messiaen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine en langue française de Radio Vatican. Il fut longuement applaudi par la foule. Le pape François a salué ce dimanche l'exemple merveilleux laissé par son prédécesseur. Commentant l'évangile du jour, François a souhaité des chrétiens libres, non télécommandés, des chrétiens qui suivent leur conscience à l'écoute de la vérité, du bien et de Dieu, comme a su le faire Benoît XVI il y a 4 mois maintenant, en renonçant à sa charge. Jean-Baptiste Cocagne.
C'est la première fois que le pape François revient aussi clairement sur le choix de son prédécesseur de renoncer le 11 février dernier au ministère pétrinien.
Il papa Benedetto XVI ci ha dato questo grande esempio.
Benoît XVI nous a donné un grand exemple, a expliqué son successeur François. Un exemple qui nous fait du bien à tous, un exemple à suivre, a-t-il dit.
Quando il Signore gli ha fatto capire.
Lorsque le Seigneur lui a fait comprendre dans la prière quel pas il devait accomplir, il a suivi sa conscience avec un grand sens du discernement et du courage, c'est-à-dire qu'il a suivi la volonté de Dieu qui parlait à son cœur. Commentant l'évangile du jour dans lequel le Christ demande à ses disciples de le suivre à Jérusalem sans condition, le pape a souligné l'importance de la conscience pour Jésus dans l'écoute de la voix du Père et son attachement à la suivre. Le Christ n'impose jamais rien et ne veut pas des chrétiens égoïstes, faibles ou télécommandés, mais bien des chrétiens libres. Ainsi, et comme a su le faire Benoît XVI, le pape a encouragé les fidèles à se mettre encore plus à l'écoute de leur conscience. Mais attention, a-t-il précisé, cela ne signifie pas suivre son propre intérêt, faire tout ce qui m'intéresse, qui me convient et me plaît, ce n'est pas cela. La conscience, a-t-il expliqué, est l'espace intérieur de l'écoute de la vérité, du bien dans l'écoute de Dieu. Cette écoute, a-t-il précisé, permet de discerner, de comprendre la route que je dois parcourir et, une fois la décision prise, à avancer et à rester fidèle.
Et avant de souhaiter un bon dimanche et un bon déjeuner aux milliers de fidèles qui étaient sous ses fenêtres, le pape les a invités à prier pour lui. François a d'ailleurs remercié les évêques, les paroisses, surtout les plus pauvres, pour leurs prières et leurs dons, afin de soutenir les initiatives pastorales et caritatives du successeur de Pierre à travers le monde. En Italie, l'Église célèbre en effet, le 30 juin, ce dimanche, la journée de la charité du pape. Au Vatican, ce lundi 1er juillet, une conférence tentera de faire la lumière sur les interconnexions entre pauvreté, biens publics et développement durable. Économistes connus, directeurs de section à la FAO ou encore consultants pour les Nations Unies se demanderont si la pauvreté est en effet un effet collatéral non désiré ou en revanche le résultat calculé de notre modèle économique actuel, organisé par l'Académie internationale pour un développement économique et social, par l'agence Demanio également qui gère le patrimoine public italien et en collaboration avec l'Association catholique de défense de la création Green Accord ONLUS. La conférence se tiendra ce lundi à l'Académie pontificale des sciences au Vatican. N'ayez pas peur de vivre la foi, soyez les témoins du Christ là où vous vivez avec simplicité et courage. Impliquez-vous dans l'évangélisation, prenez soin des plus pauvres. Quelques-unes des exhortations du pape à l'adresse des jeunes catholiques lituaniens de 14 à 35 ans réunis ce week-end dans la ville de Kaunas sur une initiative de l'église locale pour l'année de la foi. Cette 6e rencontre des jeunes a pour thème un verset de l'évangile de Jean. « Je vous ai appelé ami » et c'est donc sur ce thème de l'amitié de Jésus que le pape a articulé son message. Le Christ est votre ami, il vous accepte avec vos faiblesses, vos fragilités, sans contrepartie. Son amitié vient de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Le Christ veut être votre frère, a expliqué le pape, votre maître de vie qui vous révèle le chemin à parcourir pour atteindre le bonheur, à la réalisation de vous-même selon le plan que Dieu a pour chacun de vous. Témoigner du visage d'amour et de miséricorde de Dieu, être des artisans de paix, c'est ce que cherche humblement à faire Vincent Leclerc, l'aumônier national des prisons en France. Elles accueillent 67 839 détenus, un taux d'occupation de 118% en mai dernier. En France, de nouveaux centres pénitentiaires modernes ont été construits. Mais pourtant, la surpopulation carcérale se poursuit et pour dénoncer leurs conditions de travail, de nombreux surveillants de prison viennent de manifester. Quelles sont aujourd'hui les conditions de détention dans les prisons françaises? La réponse avec Vincent Leclerc, aumônier national des prisons.
Les conditions de détention sont quand même assez diverses selon les établissements. Par exemple, vous avez comme prison de modèle ancien, l'emblématique prison des Baumettes à Marseille. Et les prisons modernes, dont par exemple celle de Béziers dans laquelle je suis, sont modernes au niveau de leur conception, mais toutes marquées par ce mal-être à l'intérieur, qui concerne aussi d'ailleurs les personnels. Mais ce sont des établissements qui ont une préoccupation sécuritaire très importante et qui en même temps fonctionnent avec beaucoup de nouvelles technologies, d'économies d'échelle en termes de personnel et en termes de services. Il cumule en plus tout un tas de problèmes d'organisation interne et d'ambiance un peu inhumaine. C'est dans les nouvelles prisons qu'il y a le plus fort taux de suicide.
Depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de manifestations de surveillants notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler du quotidien de surveillants, des difficultés liées à ce travail ?
L'élément principal, enfin, ou du moins ce qu'ils mettent en avant, c'est la surpopulation carcérale qui les empêche de faire leur travail comme il faut. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est les conditions de leur travail. L'amélioration de la vie en détention est aussi, devrait aussi profiter aux conditions de travail des surveillants. Il y a une ambiance de surenchère et d'émotion sécuritaire font que les surveillants se trouvent pris de plus en plus dans une conjoncture qui leur est très difficile. Actuellement, les mesures alternatives qui avaient été avancées d'une part par le ministère et d'autre part par la conférence de consensus qui a eu lieu à l'automne, les préconisations ne sont pas encore entrées dans les faits. On est, je crois, dans cette conjoncture où la pression monte sans que les moyens de la faire baisser soient donnés pour l'instant. Mais on attend quand même des décisions plus fortes en termes d'aménagement de peine, de peine alternative, de changement de politique pénale, c'est-à-dire sortir du champ de l'incarcération un certain nombre de peines. Il n'y a pas beaucoup de sens à prononcer des peines de moins de 6 mois d'emprisonnement ferme.
Quel doit être dans ce contexte le rôle d'un aumônier de prison ?
Je pense que le rôle d'un aumônier de prison, en premier, quel que soit le contexte, c'est d'être fidèle à sa présence en détention et d'y être disponible à l'écoute de tous. Et essayer justement d'aider à promouvoir, quels que soient les responsables en place, une dimension humaine dans le cadre de la prison, dans le cadre de l'incarcération. Je pense qu'actuellement, c'est quand même cette dimension-là qui manque le plus.
Vincent Leclerc est interrogé par Jeanne Varaldi. Je suis prêtre et je suis heureux. La vocation joyeuse du prêtre est l'objet du Congrès européen des vocations qui s'ouvre ce lundi à Rome pour 4 jours. Une rencontre annuelle promue par le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, représentant d'évêques, délégués de la pastorale des vocations de quelques 22 conférences épiscopales ou encore d'organismes pour les religieux. 70 personnes débattront à huis clos. L'idée étant de faire mûrir des vocations dans un monde où carrière et succès personnel comptent plus que tout le reste. Il appartient aux communautés chrétiennes de transmettre la joie sacerdotale. Il revient aux prêtres de prendre soin de la dimension de la joie de sa propre vocation. Et comme par anticipation, soulignons que le tweet du pape ce dimanche est le suivant. Un chrétien ne peut jamais être mécontent ou triste. Celui qui aime le Christ est une personne pleine de joie qui répand la joie. Seconde partie de cette émission, musique et spiritualité. L'invité de ce dimanche est le père Jean-Rodolphe Kars, ancien pianiste, concertiste, premier prix du concours piano Olivier Messiaen 1968. Interrogé par Catherine Aubin, il nous fait partager sa passion, sa fascination pour son maître, non seulement en musique mais aussi spirituelle. Jean-Rodolphe Kars nous explique ce lien extraordinaire entre Messiaen le musicien et Messiaen l'ornithologue, car le chant des oiseaux fut la grande passion de Messiaen. Pour lui, les oiseaux sont nos petits serviteurs de l'immatérielle joie.
Jean-Rodolphe Kars, vous êtes prêtre, juif converti, et vous avez été pianiste concertiste. Que s'est-il passé entre cette première étape de votre vie où vous jouiez du piano en concert et puis ensuite vous êtes devenu prêtre?
Pour parler de mes origines, je suis effectivement d'origine juive. Mes deux parents étaient juifs viennois, autrichiens. Ils ont quitté l'Autriche en 1938. C'est en Inde qu'ils se sont réfugiés, mariés, et je suis né donc en Inde, à Calcutta, après la guerre. Je n'y suis resté que 6 mois. Mes parents ensuite, depuis 1948, ont voulu s'établir en Europe, mais ils ont choisi de s'établir en France, où j'ai grandi. J'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. À 14 ans, j'étais encore en formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et c'est après, j'ai commencé une carrière en 67, donc j'avais 20 ans. Avec donc les activités habituelles d'un concertiste, je voulais être très éclectique. Ça ne veut pas dire que quantitativement j'ai eu un grand répertoire. Je tenais à jouer de la musique depuis Jean-Sébastien Bach jusqu'à Boulez, Stockhausen et Messiaen. Mais il y a quand même, je dois parler d'une passion à part qui est celle d'Olivier Messiaen. Donc ça, c'est que j'ai
rencontré. Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré à l'âge de 19 ans, effectivement. C'était des enregistrements de ses œuvres, mais en sa présence. Et où il commentait ses propres œuvres, j'étais immédiatement fasciné par l'univers spirituel et sonore donc de son œuvre. Ça a été le coup de foudre et une passion est née à ce moment-là, littéralement, pour son œuvre.
Vous pouvez nous raconter ce coup de foudre ?
Alors, j'y étais d'abord allé. Bon, il y avait une raison anecdotique qui n'est pas importante pour laquelle je devais le rencontrer pour lui dire quelque chose. Donc j'ai pris l'occasion d'aller à ce concert. Ce concert a été une véritable découverte pour moi. Les commentaires qu'il faisait lui-même, où il citait ses propres sources bibliques surtout, ou théologiques. La manière dont il écoutait lui-même cette œuvre aussi, ça m'avait frappé. Il l'écoutait avec un extrême sérieux, comme si ça le dépassait, comme si quelque part ça ne lui appartenait plus. C'était un acte presque religieux. Il avait la partition devant lui, et il était donc face à nous, le public, et il suivait. Très très scrupuleusement ce qui était mis, c'était comme une célébration intérieure. J'ai compris qu'il y avait une dimension spirituelle, mais que je n'avais pas pu encore formuler ou conceptualiser à ce moment-là. Bien plus tard, quand j'ai commencé à me préparer à être prêtre, j'ai pris progressivement conscience pendant mes études de théologie qu'en fait, il y avait eu en moi pendant des années une sorte de catéchèse souterraine que le Seigneur m'apprenait les choses de la foi à travers l'œuvre de Messiaen. Alors, je suis quand même obligé de dire qu'en 76, donc, quand il y a une irruption littéralement de Dieu, du jour au lendemain, ça s'est passé une nuit de juin, là, les causes n'étaient absolument pas musicales. Et je n'avais absolument pas Messiaen en tête, c'était autre chose. Et j'ai rencontré donc quelqu'un, mon futur parrain de baptême, un laïc irlandais, mais vivant à Londres. Il m'a parlé de Jésus pendant une après-midi. Et la nuit même, j'ai fait une expérience foudroyante. Donc le cheminement est allé très vite.
Et là, le concert, le piano, qu'est-ce que vous devenez ?
J'étais encore en pleine carrière. Donc je continuais à jouer, mais avec une attitude vis-à-vis de la musique qui était très négative. Pendant un temps, j'avais un véritable dégoût de la carrière musicale. Donc il y a eu tout un moment de dégoût où ça me paraissait terriblement dérisoire de passer du temps pendant des heures à encore préparer un concert, à essayer de mieux jouer encore, de fignoler des phrases musicales, etc.
Est-ce que vous vous sentiez un peu comme esclave ?
Ah oui, à ce moment-là, oui, tout à fait. Puis je me payais des tracts épouvantables. Parce qu'il y a aussi un aspect qu'il faut se dire, une conversion, c'est tout un édifice qu'on s'était forgé soi-même qui s'écroule.
Et quelques années plus tard, vous êtes prêtre.
Oui, très vite j'ai reçu le baptême, et alors la vocation sacerdotale est venue très vite après.
Et Messiaen ?
Alors, c'est pendant toute ma formation de théologie, c'est surtout là. Donc j'ai fait ma formation à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles. Très vite, on a commencé à me demander de faire des petites interventions comme musicien. Et j'étais appelé là à faire donc un jour une conférence sur une œuvre d'orgue de Messiaen, par rapport à un séminaire sur la Trinité. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça... Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la musique de Messiaen et ses commentaires qui n'ont pas cessé pendant 10 ans de chanter dans mon cœur. Et donc, il y avait une mémoire vivante, ce qui fait que j'en suis vraiment arrivé. Je me suis dit, mais en fait, j'étais éduqué par cette œuvre.
Comme une résonance.
Oui. Et du coup, j'ai toujours dit, bien, je considère qu'Olivier Messiaen est mon premier père spirituel, même si lui et moi, nous n'en étions pas conscients au début.
Pour continuer sur Olivier Messiaen, Jean-Rodolphe Kars, puisque vous êtes un spécialiste, on peut dire, d'Olivier Messiaen. Olivier Messiaen était ornithologue aussi.
Oui.
Comment expliquez-vous ce lien et Pouvez-vous nous en parler ?
Messiaen était, en cela il est très franciscain, il était un amoureux éperdu de la nature et de la création. Donc déjà les couchers de soleil, la mer, le bruit du vent, le bruissement des feuilles, les orages, ou la vision de la neige, ou des glaciers, tout ça, il avait une puissance d'évocation de le faire en musique aussi. Les chants d'oiseaux, il a eu cette passion déjà très jeune, parce qu'il considère les oiseaux, c'est lui qui parle, comme les plus grands musiciens de toute la création, les plus grands improvisateurs, les plus géniaux créateurs, je veux dire, avec une fantaisie de créativité, une diversité. Alors il y a d'abord une raison, je dirais, esthétique, musicale. Messiaen, qui n'a jamais eu le moindre doute du point de vue de la foi, depuis son enfance jusqu'à sa mort, il a une foi, il n'a jamais eu de désert, pas de doute, rien du tout, mais il a eu des doutes et il a eu des déserts sur son œuvre, sur l'utilité de son œuvre ou même sur la valeur de son œuvre. Et il a commencé à chercher des sources d'inspiration, c'était tous des impasses, et puis finalement, c'est lui-même qui le dit, ce sont les oiseaux qui m'ont redonné le goût de composer. Alors il a pris des notations de chants d'oiseaux, on a des centaines et des centaines de cahiers qu'on a retrouvés après sa mort, des milliers littéralement de notations de chants d'oiseaux, pris la nuit, le jour, dans les paysages les plus divers. Alors ça c'est l'aspect esthétique, musical, il est fasciné par la diversité et même les nuances. Il dit par exemple qu'un loriot ne chante pas la même quand le soleil est en plein midi. Mais maintenant, il y a des raisons théologiques. Et dès les années 40, déjà, il a ce mot merveilleux. Il dit « Les oiseaux sont nos petits serviteurs de l'immatérielle joie ». Alors plus tard, dans son immense opéra Saint-François d'Assise, Messiaen s'est fait longuement prier pour écrire un opéra. Il pensait qu'il n'était pas doué pour un opéra. Il dit « Mais qu'est-ce que je vais mettre comme opéra ? Rien sur le Christ. Le Christ, on ne peut pas le mettre en opéra. » Alors on insistait, il a fallu qu'il y ait une intervention du président Pompidou pour qu'il accepte de faire un opéra pour Paris. Finalement, il a dit « Je vais faire Saint-François d'Assise. » Alors il fait parler Saint-François d'Assise avec des paroles qui ne sont pas de Saint-François d'Assise, mais qu'il emprunte un peu à saint Thomas d'Aquin. Et Saint-François dit « L'extraordinaire virtuosité et la liberté des chants des oiseaux prophétisent notre future condition de corps glorieux. » C'est en particulier le don d'agilité. Le don d'agilité selon lequel les corps glorieux, comme les anges, pourront se déplacer d'un point de l'univers à l'autre sans aucun obstacle ni spatial ni temporel. En un clin d'œil, ça c'est le don d'agilité. Et bien pour Messiaen, les chants d'oiseaux prophétisent cela. Cette extraordinaire liberté, cette jubilation qui ne connaît pas de frein, qui ne connaît pas d'obstacle. La grande performance de Messiaen, il n'a pas voulu composer un opéra dramatique dans le sens des styles d'opéra un peu plus classiques ou romantiques ou même modernes. Pour lui, la seule action, entre guillemets, qui n'est pas une action, l'opéra veut exprimer d'un bout à l'autre la croissance de la grâce dans l'âme de Saint-François. Il est d'abord François, amoureux de la création, et il devient Saint-François à partir du baiser aux lépreux, lorsqu'il surmonte sa répugnance naturelle vis-à-vis des lépreux. Et alors là, il y a une croissance de la grâce, alors on passe à Saint-François priant en oraison, ensuite on passe à François demandant la grâce de pouvoir voir un petit peu ce que sera la vie bienheureuse, donc l'ange musicien, et ça c'est un fiorité de Saint-François, l'ange musicien qui joue et qui tire sur la viole un son si suave que Saint-François s'évanouit et quand il se réveille, il dit à ses frères « Si l'ange avait tenu encore ce son un peu plus longtemps, mon âme, par intolérable douceur, aurait quitté mon corps. » Et puis on en arrive bien sûr au stigmate, ça c'est un des tableaux les plus bouleversants dans l'opéra de Messiaen, et puis la mort de François et la nouvelle vie.
Quelle est la part des oiseaux aussi dans l'œuvre Saint-François d'Assise ?
Là, elle est énorme. C'est le triomphe de l'ornithologie chez Messiaen. Le sixième tableau qui s'appelle « Le prêche aux oiseaux ». Et c'est le plus long des tableaux. Et là, il y a un concert d'oiseaux. Alors d'abord, il y a le serment de François aux oiseaux. Alors le texte est complètement repris par Messiaen et constamment ponctué par la réponse que font les oiseaux. Et finalement, il y a ce fameux légendaire tutti, un concert d'oiseaux qui dure moi je ne sais pas combien de temps. Une fois que Saint François a fait le signe de la croix sur les oiseaux s'égayent, ils se dispersent aux quatre coins de l'horizon avec un concert donc foisonnant. Et alors un musicologue dit que c'est le concert le plus fou d'oiseaux qu'on ait jamais écrit en musique.
Le père Jean-Rodolphe Cars était l'invité de ce dimanche de Sœur Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.